Véroa Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonjour le monde aujourd'hui, bienvenue dans cette édition du mardi 28 novembre 2023. Avec vous, Eric Manirakiza, d'abord les titres. Une rencontre au sommet entre le président Patrice Talon et l'opposition béninoise pour discuter de la libération des détenus politiques et l'audit de la liste électorale. La détérioration humanitaire à Ménaka au Mali, un afflux croissant de déplacés, fuit les violences de l'État islamique et les bombardements de l'armée malienne.
Les affrontements dans la zone de Ménaka, qui ont commencé depuis le mois de mars 2023, cela a fait déplacer toutes les populations des autres cercles dans la ville de Ménaka.
En Sierra Leone, 20 morts et dont 13 soldats lors d'une attaque dimanche contre une caserne militaire. En Mauritanie, l'ancien président Aziz nie fermement les accusations d'enrichissement illicite devant un tribunal. La foire du Made in Côte d'Ivoire à Abidjan, une centaine d'entreprises mettent en valeur la production locale.
Notre objectif premier, c'est de démocratiser la consommation des produits locaux.
Célébration du 65e anniversaire de la fête nationale en République centrafricaine avec une course de pirogue sponsorisée par VOA. Extension de 48 heures de la trêve à Gaza, saluée par la Maison Blanche. D'autres libérations attendues. Le secrétaire général de l'ONU appelle à briser le cycle du réchauffement climatique lors de la COP 28. Dans 10 minutes, vous suivrez l'économie et les sports, mais d'abord le journal. Le président Patrice Talon a rencontré lundi soir des membres du Parti Les Démocrates, principale coalition politique de l'opposition au Bénin. Conduite par l'ancien président Boni Yayi, la délégation a discuté avec le chef de l'État de diverses questions d'international, notamment la libération des détenus politiques et l'audit de la liste électorale de Ginette Fleur-Adandé, notre correspondante à Cotonou.
Annoncée comme étant la rencontre de tous les espoirs pour la décrispation de la situation politique, la rencontre entre Patrice Talon et les représentants du Parti Les Démocrates, dont l'ancien président Yayi Boni a eu lieu. Plus de 3 heures de discussion sur des questions essentielles. Je souhaite qu'on débatte sans langue de bois, a lancé le chef de l'État Patrice Talon selon une source locale. Son prédécesseur, prenant la balle au bond, a déclaré que le système électoral n'est pas inclusif. Il est difficile de parler de paix sans parler de nos compatriotes en prison, en exil, a déclaré Yayi Boni. On ne peut pas aller aux élections de 2026 avec le statu quo. Il faut trouver des solutions, il faut trouver un consensus, a déclaré l'ancien président. Face à ces doléances, Patrice Talon a donné son accord pour l'audit de la liste électorale et a promis travailler pour la correction de toutes les anomalies qui s'y trouveraient. L'autre point à l'ordre du jour concernait la libération de Rekia Madougou, ancienne ministre de la Justice, sous Boni Yayi, ancienne conseillère du président togolais Faure Yassine. Malgré les arguments avancés par l'ancien président demandant la bonne foi de son successeur, ce dernier est resté intransigeant. Monsieur le président Boni Yayi, je vous ai déjà dit que je ne compte pas gracier Rekia Madougou. Si les acteurs politiques ne doivent pas rendre compte de leurs actes, ce n'est pas bien. Laissons un code à la République. Parfois le pardon peut être une faute, rapporte la même source. En marge de cette rencontre, le président de GDS Afrique, Maître Sadiku Alao, a déclaré à la presse qu'il souhaite que cette rencontre qui se tient à 2 ans des prochaines élections soient à la taille de la grandeur que représentent les deux anciens présidents. Il faut que les décisions annoncées soient aussi grandes que l'espoir du peuple, a-t-il ajouté. En plus de Boni Yayi, la délégation était constituée du premier vice-président du parti, Eric Rondeté, du deuxième vice-président, Léon Komla Rossi, et du président du groupe parlementaire, Nourinou Atchade. De Cotonou, Ginette Fleur-Adandé pour VOA Afrique.
Le gouvernement togolais a annoncé hier à la télévision d'État l'organisation d'élections législatives et régionales prévues au plus tard à la fin du premier trimestre 2024. Le dernier scrutin de ce type en 2018 avait été boycotté par l'opposition dénonçant des irrégularités dans le recensement électoral. Cette fois-ci, l'opposition se prépare à défier le parti au pouvoir, l'Union pour la République, mobilisant ses partisans pour le recensement électoral tout en critiquant l'élaboration du fichier électoral. Une cinquantaine Une cinquantaine de djihadistes affiliés à l'État islamique ont été tués dans l'explosion d'une mine anti-véhicule dans la région du Tchad, du lac Tchad, dans le nord-est du Nigeria, selon des chefs de milices anti-djihadistes soutenant l'armée nigériane dans la lutte contre les djihadistes. Les combattants planifiaient une attaque lorsqu'un incident s'est produit, a déclaré un autre milicien, Ibrahim Liman, confirmant le même bilan. Attaque meurtrière menée dimanche en Sierra Leone, 20 personnes dont 13 soldats ont été tués lors d'une offensive contre une caserne militaire et d'autres sites en Sierra Leone, a déclaré lundi à Reuters un porte-parole de l'armée, Michel Joseph.
Parmi les 20 morts figurent 3 assaillants, un policier, un civil et une personne travaillant dans le secteur de la sécurité privée, a déclaré le colonel Issa Bangoura, porte-parole de l'armée. 8 personnes ont été blessées et 3 arrêtées, a-t-il ajouté. Nous avons lancé une chasse à l'homme pour retrouver tous ceux qui sont impliqués dans l'attaque, dont des soldats en activité ou à la retraite, a déclaré le colonel Bangoura. Par ailleurs, les responsables de la prison centrale de Freetown ont indiqué que quelques 1890 détenus se sont évadés pendant l'attaque et 23 d'entre eux ont été renvoyés en prison. Le président Julius Mada Bio a déclaré dimanche que la plupart des responsables de l'attaque ont été arrêtés. Mais les autorités sierra-léonaises n'ont pas fourni de précisions sur les instigateurs de ces événements, ni leur identité et motivation. La vie a repris son cours normal à Freetown. Le gouvernement a réduit le couvre-feu de 21h à 6h GMT.
L'ancien président mauritanien Mohamed Ould Abdelaziz réfute fermement les accusations d'enrichissement illicite lors de sa dernière prise de parole devant un tribunal où il est jugé depuis plusieurs mois. Mohamedou Oumfa.
Toutes ces accusations sont erronées, injustes et s'inscrivent dans le complot ourdi contre moi, a déclaré Mohamed Ould Abdelaziz devant une cour criminelle anticorruption de Nouakchott en présence d'un nombre public dont plusieurs de ses partisans. On m'accuse de corruption, où est donc mon corrupteur? Où sont les preuves de cette corruption, s'est-il défendu? Je suis directement visé, a-t-il dit, en arguant que ses prédécesseurs n'avaient pas eu à rendre des comptes. Monsieur Aziz, qui a dirigé la Mauritanie de 2008 à 2019, répond depuis le 25 janvier avec 10 autres personnalités, des chefs d'enrichissement illicite, abus de fonction, trafic d'influence ou blanchiment. Il est détenu depuis le 24 janvier, après avoir passé plusieurs mois en détention en 2021. Il se serait constitué un patrimoine et un capital estimé à 67 millions d'euros au moment de son inculpation en mars 2021. Le procureur a requis 20 ans de prison ferme contre lui et réclamé la confiscation de ses biens. Le tribunal devrait prononcer son jugement dans quelques jours, selon différentes parties au procès.
La junte nigérienne a abrogé une loi anti-migration qui avait contribué à réduire le flux d'Africains de l'Ouest vers l'Europe. Cette loi a été décriée par les habitants du désert dont les économies dépendaient depuis longtemps de ce trafic. Adoptée en mai 2015, cette loi interdisait le transport de migrants à travers le Niger. Le nombre de personnes traversant la Méditerranée depuis l'Afrique atteignait des niveaux records, déclenchant une crise politique et humanitaire en Europe.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
La trêve entre Israël et le Hamas est prolongée une première fois ce mardi avec la libération prévue d'autres otages israéliens et prisonniers palestiniens et l'acheminement d'aide dans la bande de Gaza où la situation humanitaire reste catastrophique. La Maison-Blanche salue cette décision et appelle à une extension plus longue. Lionel Gahima.
La Maison-Blanche a salué la prolongation de la trêve selon John Kirby, un de ses porte-paroles. Washington souhaite que la pause soit prolongée et cela dépendra de libération d'otages supplémentaires par le Hamas, a-t-il ajouté. Pour Antonio Guterres, secrétaire général de l'ONU, c'est une lueur d'espoir et d'humanité, même si cela n'est pas suffisant pour apporter l'aide nécessaire aux habitants de Gaza. Un répit supplémentaire permettra de fournir davantage d'aide aux populations qui en ont grand besoin et d'obtenir la libération d'autres otages en échange de la libération des prisonniers palestiniens, a souligné Jens Stoltenberg, secrétaire général de l'OTAN. Le chef de la diplomatie de l'Union européenne, Joseph Borrell, a, de son côté, réclamé une trêve durable en vue de travailler sur une solution politique au conflit. La trêve devait initialement s'achever ce mardi, 5h GMT. Elle a déjà permis depuis vendredi la libération de 39 otages israéliens et de 117 Palestiniens détenus par Israël. En outre, 19 otages ont été libérés hors accord à majorité des Thaïlandais qui travaillent en Israël.
Le secrétaire général de l'ONU exhorte les dirigeants du monde à la COP28 à briser le cycle dévastateur du réchauffement climatique. Un hommage sera rendu ce mardi à Atlanta à l'ancienne première dame des États-Unis, Rosalynn Carter, décédée il y a une semaine à l'âge de 96 ans. Vous suivez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique, voaafrique.com. Dans votre actualité économique en Afrique et ailleurs, suivez la Minute Éco, présentée ce matin par Alexandrine Rollignon.
La Banque africaine de développement approuve un prêt de 131 millions de dollars à l'Égypte pour l'environnement des affaires. Le pays se remet de certains chocs externes provoqués par la pandémie de Covid-19 et la guerre en Ukraine. La banque a déclaré dans un communiqué que le prêt favorisera le développement du secteur privé et la diversification de l'économie. Le gouvernement kenyan annonce la vente de participations dans 11 entreprises publiques pour renflouer les caisses de l'État au moment où les recettes fiscales restent inférieures à ses objectifs. Les 11 entreprises dont la Société nationale pétrolière et gazière et un de ses opérateurs, des entreprises agricoles et une maison d'édition, figurent parmi les 35 que le président William Ruto a annoncé vouloir privatiser. Locomotive d'Afrique de l'Est, l'économie kényane est en proie à une inflation galopante et à une monnaie en chute libre qui a fait monter en flèche le coût du remboursement de la dette. Plusieurs centaines de jeunes malawites sont partis en Israël pour travailler dans des fermes désertées à la suite des attaques du Hamas et des bombardements sur Gaza, a annoncé le gouvernement du Malawi. Un premier vol transportant 221 jeunes hommes a quitté samedi le Malawi pour Israël. Des milliers d'employés agricoles ont quitté les fermes d'Israël, un secteur important de l'économie du pays, depuis les attaques du Hamas du 7 octobre.
Sans transition, nous passons à votre page d'espoir avec Yacouba Ouédraogo. Bonjour Yacouba.
Bonjour Eric, bonjour à tous.
D'abord, les demi-finales de la Coupe du Monde des moins de 17 ans qui se disputent aujourd'hui en Indonésie.
Oui, les espoirs africains reposent sur les épaules des jeunes Maliens qui affrontent la France. Pour rappel, en quart de finale, le Mali est venu à bout du Maroc 1-0. Pour notre consultant sportif, les jeunes Maliens doivent rester dans la constance face à leurs homologues français. Amine Birouk.
Toute l'Afrique maintenant tournera ses espoirs vers cette équipe malienne séduisante, fraîche, conquérante avec un cocktail conditions physiques, puissance et technique qui font aujourd'hui des merveilles. Il va falloir sortir la même performance contre l'équipe de France pour aller en finale et continuer à faire rêver tout un continent.
Amine Birouk, consultant sportif, joint à Casablanca au Maroc. L'autre demi-finale de ce mondial des moins de 17 ans va opposer l'Argentine à l'Allemagne dans un grand classique du football mondial.
Et en Europe, débutent aujourd'hui des matchs de la cinquième journée de la phase de groupe en Ligue des Champions.
Tout est encore possible dans le groupe F, le plus serré des 8 groupes. Le Borussia Dortmund, leader avec 7 points, se rend sur la pelouse de l'AC Milan, 3e avec 5 points. Le Paris Saint-Germain, 2e avec 6 points, doit battre Newcastle pour prendre sa revanche de l'aller 4-1 pour les Magpies à St James Park. Les deux équipes ont bien préparé le choc, Paris en battant Monaco 5-2 et Newcastle en cartonnant Chelsea 4-1 en championnat. L'Atlético Madrid a une première balle de qualification pour les huitièmes s'il gagne au Feyenoord Rotterdam. Moins de suspense dans le groupe G où il ne reste plus que la première place et la réversion vers la Ligue Europa à attribuer. Un nul suffit aux champions d'Europe, Manchester City, pour conserver la tête devant le RB Leipzig. L'autre rencontre, Young Boys, étoile rouge de Belgrade, va assurer son éventuel vainqueur de la troisième place et d'un accès au barrage de la Ligue Europa. Rebond attendu du Barça dans le groupe H. Surpris à Hambourg par le Shakhtar Donetsk 1-0, le FC Barcelone doit se reprendre à domicile contre le FC Porto. Revenu à sa hauteur avec 9 points, le Shakhtar compte profiter contre le Royal Antwerp du duel entre les deux premiers du groupe pour revenir à 9 points et jouer la qualification au dernier match à Porto.
C'était les sports avec Yacouba Ouédraogo.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous êtes à l'écoute du Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. Eric Manulakiza de retour avec vous pour les dossiers du jour. La situation humanitaire à Ménaka au Mali continue de se détériorer avec un afflux croissant de personnes déplacées, principalement originaires de la localité d'Anderambukane. D'après des témoignages recueillis dans la région, ces familles fuient à la fois les violences perpétrées par l'État islamique au Sahel, qui contrôle la zone, et les bombardements de l'armée malienne. Pour en savoir davantage, Jean-Roger Bion, adjoint dans la ville de Ménaka, le journaliste Alousseini Agali, directeur de la radio à Adar.
La situation à Ménaka devient très, très, très critique en ce moment. Parce que toute la région de Ménaka est déplacée dans la ville de Ménaka suite aux événements, les affrontements dans la zone de Ménaka qui ont commencé depuis le mois de mars 2023. Donc cela a fait déplacer toutes les populations des autres cercles dans la ville de Ménaka. Tout récemment, avec les récents affrontements qui ont lié vers Anderambukane, les populations qui sont restées dans la ville de Ménaka ont commencé depuis la semaine passée à regagner la ville de Ménaka.
Alors, est-ce que des mesures ont été prises pour l'accueil de ces réfugiés qui, j'entends dire, ont tout perdu de là où ils viennent?
Bien sûr. Ces déplacés, elles ont tout perdu aujourd'hui parce que c'est des gens qui n'ont même pas les moyens de se faire déplacer. Et c'est ça qui a fait que beaucoup d'entre eux sont restés dans la ville d'Anderambukane dans le passé. Mais cela les a obligés, la situation les a obligés de quitter Anderambukane. Parce qu'avec le frappe de ces dernières semaines-là dans la zone, où il y a eu des civils qui ont été tués et des blessés. Donc les gens, ils étaient obligés de quitter la ville d'Anderambukane, malgré qu'ils n'ont pas les moyens. D'autres sont venus ici sans rien. Donc aujourd'hui, ces gens-là vivent à Ménaka avec des difficultés énormes.
Alors ce que l'on savait, c'est qu'il y avait des combats à Kidal avec le ratissage pour chasser les derniers rebelles qui se trouvaient dans la région. Y a-t-il d'autres nouveaux combats ou c'est la ramification de ce qui se passe à Kidal?
En fait, la situation sécuritaire dans la région de Ménaka n'a pas de lien avec ce qui se passe à Kidal. Voilà, la situation dans la région de Ménaka est une situation des affrontements entre l'armée et les groupes terroristes qui sont dans la zone. C'est différent des derniers événements qui se déroulent dans la région de Kidal. Et tout compte fait, on sait que cette situation peut impacter la population de Ménaka. Parce que la route de Kidal, beaucoup de commerçants qui quittent l'Algérie passent parfois par Kidal, traversent le désert de Kidal pour venir à Ménaka. Donc cela peut impacter vraiment le ravitaillement de la ville de Ménaka.
C'était Alousseini Agali, directeur de la radio Adar à Ménaka.
Restez branchés 24h sur 24 sur VOA Afrique à Bamako au Mali sur 102.0 FM.
La foire du Made in Côte d'Ivoire a tenu toutes ses promesses à Abidjan, la capitale ivoirienne, rassemblant une centaine d'entreprises lors de cet événement organisé du 22 au 26 septembre. L'initiative visait à mettre en avant la production et la consommation des produits ivoiriens. Le compte-rendu avec notre correspondant à Abidjan, Ange Bijou Nomenyo.
Des produits cosmétiques, alimentaires et agricoles 100% ivoiriens. Tout au long de la foire du Made in Côte d'Ivoire, les consommateurs ivoiriens ont pu voir et apprécier tout ce qui se fait en termes de création dans leur pays. Cette start-up ivoirienne, créée depuis 2020, transforme et produit du chocolat Made in Côte d'Ivoire. Joël Conan est transformateur de cacao.
Notre objectif premier, c'est de démocratiser la consommation des produits locaux, tels que le cacao et tout ce qui est dérivé du cacao. Voilà. Nous faisons plusieurs saveurs de chocolat, tels que le chocolat noir au gingembre, le chocolat noir à 90%, le chocolat noir aux cacahuètes. Notre particularité, c'est l'originalité dans nos produits. Donc, le produit que nous confectionnons, aussi dans le prix, nos prix qui sont abordables par rapport à la qualité de produit que nous proposons.
Un peu plus loin, une autre entreprise très connue dans le domaine du cosmétique était aussi présente. Dream Cosmetics est une entreprise ivoirienne qui fait dans la production de produits cosmétiques. Laurence Yadé est la directrice commerciale de Dream Cosmetics.
Dream Cosmetics est une société qui produit et distribue des produits cosmétiques sur la Côte d'Ivoire et sur la sous-région, et même dans le monde. Donc on fait des produits, des soins hydratants, des soins hygiène, ben pour toute la famille, des parents jusqu'au bébé. On a une marque Babymed qui est très appréciée en Côte d'Ivoire et dans la sous-région, de soins bébés spécifiques, très experte dans ce secteur.
Selon les organisateurs, plus de 500 visiteurs et plus de 100 entreprises locales ont pris part à ce grand rendez-vous qui met en avant les opérateurs ivoiriens. Le thème retenu pour cette deuxième édition était la qualité made in Côte d'Ivoire, opportunités d'affaires et facteurs de croissance inclusive. Ange Bijounomélian pour VOA Afrique, Abidjan.
Abidjan, Côte d'Ivoire, 99 FM, c'est bien sûr VOA Afrique, 24h sur 24.
La République centrafricaine s'apprête à célébrer son 65e anniversaire avec des festivités incluant la course de pirogue, soutenue cette année par la Voix de l'Amérique en partenariat avec la municipalité de Bangui. Émile Gros-Raymond Nakombo, président de la délégation spéciale de la ville de Bangui, partage ses impressions sur cet événement sportif et culturel avec nos envoyés spéciaux Félix Yepasi-Zembro et Firmin Max Koyaweda.
La course de la pirogue a été réinstaurée sous ma houlette pour agrémenter cette journée nationale qui est le 1er décembre. Nous l'avons fait parce que la population l'a demandé. Et à chaque fois que nous essayons d'ailleurs de l'organiser, nous avons votre appui de la radio Voix d'Amérique. Cela signifie que la VOA est avec nous. Cette fête de pirogue se déroule sous cette ardeur, sur tous ces mérites-là, pour honorer notre ville, comme on le fait souvent.
Et on voit que dans la ville de Bangui, beaucoup de maisons sont submergées du fait des inondations. Et cela ne va-t-il pas impacter la course de pirogue le 1er décembre prochain ?
Nous prions Dieu, puisque nous tous nous sommes des croyants, nous prions Dieu que cela se passe comme nous avons l'habitude de le faire. Et je suis sûr que la course de pirogue va se passer normalement. L'inondation que nous connaissons aujourd'hui vient du changement climatique. La ville de Bangui a dressé son plan énergétique et a été la première ville subsaharienne, je dis bien subsaharienne, à dresser son plan énergétique qui est évalué à 1 milliard de dollars. Et ce plan comporte trois grands axes. L'atténuation au changement climatique, la lutte contre le changement climatique, contre les effets de serre et l'assainissement. Et tout ça, vous voyez, ce sont des pans qui sont financés à hauteur de quelques milliards, à hauteur de quelques millions de francs CFA. C'est vrai que nous avons l'inondation, mais nous faisons attention à cela. Cette inondation vient tout simplement du fait que l'homme est son propre prédateur. Et quand nous parlons du changement climatique, du plan énergétique, c'est pour habituer nos populations à lutter contre, bien sûr, ce changement climatique en reboisant. Nous parlons dans ce plan-là de l'agriculture périurbaine, de la foresterie périurbaine, urbaine, la lutte contre les inondations. Parce que Bangui est dans une sorte de vallée. Et normalement, cette vallée ne veut pas connaître des constructions des habitations. Nous devons éviter de faire construire des bâtiments dans cette vallée. Les bâtiments devaient être plutôt au flanc de cette colline de Lubangui et toute la chaîne de collines qui borde Bangui. Mais malheureusement, ces habitations sont dans cette vallée. Et cela fait que cette vallée, elle est marécageuse. Vous voyez, quand on parle de la Kwanga, c'est lac Kwanga, le lac de Kwanga. Cette zone ici-là, c'était de la marécage, c'était de l'eau. Et tout ça, Bangui, est inondable très facilement. Mais nous, avec l'appui du gouvernement, nous essayons d'être attentifs à cela et d'être alertes aussi.
Votre rendez-vous quotidien sur VOA Afrique à Bangui, c'est sur 101.7 FM en République centrafricaine.
La cinquième édition du festival Musika Nakipaji, où jeunes filles talentueuses en Swahili s'est tenu à Goma le dimanche 26 novembre. Ce festival a réuni de nombreuses femmes artistes venues de différents pays. C'était l'occasion de la célébration du talent féminin dans l'art et la promotion de messages de paix dans l'est de la RDC. Zanem Netizaidi pour plus de détails.
Les atrocités subies par les femmes de l'est de la République démocratique du Congo, du fait de la guerre qui sévit dans cette région, bouleversent d'autres femmes activistes et artistes. Sheila, une jeune artiste déplacée par la guerre qui vit à Goma, se concentre depuis plusieurs mois sur une musique révolutionnaire dans le seul but de faire valoir les droits des femmes et de dire au monde que son pays a besoin de paix.
La paix a disparu dans mon pays. Une grande partie de la terre congolaise est occupée par des terroristes. Et donc, les femmes sont touchées fort par cette situation.
Cette année, Sheila, comme d'autres jeunes artistes féminines, a participé au festival Musique à la Kipaji, un festival 100% féminin qui vise à mettre en exergue les talents des femmes. Nous l'avons suivi tout au long du festival et avant de monter sur scène, elle était déterminée à transcender son handicap d'albinisme et à offrir un spectacle à la hauteur de son combat.
Je suis une femme albinos et dans mes chansons révolutionnaires que je vais prester, ça va parler de la paix, ça va parler de la situation de la femme qui continue à être aggravée à cause de la situation des guerres qui continuent à toucher mon territoire ou bien mon pays.
Le public est tombé sous les charmes de cette jeune artiste qui a laissé une bonne partie de l'assistance sans voix à l'instar des varistes Iragi, habitants de la ville de Goma.
Et là, chanter sur un rythme, le reggae, qui n'est pas un rythme approprié à tout le monde, mais aussi le fond de son message, le message qui portait principalement sur la paix. Elle a transmis des messages de paix et nous, en tant que public, on a été émerveillés.
L'objectif du festival a été atteint, selon les organisateurs. Elisha Abumba, directeur du festival, explique qu'en plus de montrer les savoir-faire artistiques des femmes, le festival est un outil de plaidoyer pour faire valoir les droits des femmes.
Le Musique à la Kipaji reste l'espace de plaidoyer. Ce sont des problèmes du pays, des problèmes de la société. Et nous croyons que le partage reste la solution à ça. Il faut révolter les gens, il faut montrer les problèmes pour que tout le monde puisse s'engager. C'est la lutte, au fait.
Les artistes féminines qui ont agrémenté cette 5e édition des Musique à la Kipaji venaient d'horizons divers, notamment de plusieurs villes de la RDC, du Rwanda, du Zimbabwe et du Burundi. Zanem Netizaidi, à Goma, pour VOA Afrique.
Le Monde aujourd'hui avec Eric Manilakiza, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Georges Léonard Sagnot a assuré la réalisation et la mise en onde. Un grand merci à toute l'équipe de rédaction. Rendez-vous sur notre site internet voafrique.com et nos pages Facebook, YouTube, X et Instagram pour un suivi de l'actualité 24 heures sur 24. Je vous souhaite une excellente journée à l'écoute de nos programmes et à la prochaine.
Vous écoutez Le Monde aujourd'hui, diffusé partout en Afrique francophone. À Dakar, sur 102 FM. 91.5 FM Bujumbura, Raga FM 90.5 Kisangani, Sabou FM 96.6, Kindia, Guinée et bien d'autres encore, sans oublier sur ondes courtes, Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique.
Pour toujours, dans la richesse, la pauvreté, la peine et la joie. Je te chérirai pour le meilleur et contre le pire.